C'est clair jusque-là? Et on va le voir dans la caméra. Je ne vous ai rien inventé, je vais vous citer une caméra. Okay? Et je crois que ces différents paliers du courage du retour, et lorsqu'on suit le texte assez attentivement, on voit que c'est pas fini en une génération. Il faudra arriver dans cette sélection d'identité, l'araméen redevenant hébreu, à Jacob recevant le nom d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ce que le langage de la Kabbalah appelle l'écorce d'identité, la klipa, doit se séparer pour que le noyau pur de l'identité hébraïque émerge. Alors il y a une klipa qui part avec Ishmaël, une autre qui part avec Esav, et c'est Jacob qui devient Israël. Bon, vous familiarisez avec tout cela. Alors, je voulais surtout parler des paliers d'identité. C'est-à-dire, dans un langage un peu imagé, et on pourra dire que Haran est un juif qui souhaitait être enterré en Israël, mais qui a été enterré au Kazim. Le Terach a fait le voyage, il s'est arrêté à Marseille, et est devenu président de la Fédération sioniste de Marseille. Oui. Il y a d'ailleurs un Midrash qui dit que Terach a fait un petit tour de Tourvé Alé, comme on dit aujourd'hui, d'exploration du pays, mais est revenu à Marseille. Oui, la réalité semble être terrible, cruelle, mais c'est la réalité de cette histoire. Okay. Alors que l'autre a fait une demi-alia, il est allé se réfugier à Pompéi. Sodome et Gomorre. Okay. Et puis que cette épuration d'identité, l'araméen redevenant hébreu, réussit en Abraham, mais elle s'instaure en rivalité d'identité contre Abraham et sa descendance dans ces impasses qui n'ont pas réussi l'émergence réelle. En particulier le cas de Laban, qui sera appelé Laban à Arami, et qui est un membre de cette famille, puis qui est le fils de Nahor. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Alors, si c'est suffisamment clair, nous pouvons quand même achever la lecture de ce chapitre 11, et je reviendrai au chapitre 14 pour l'identification du sens du mot hébreu. Alors, je crois qu'on a bien progressé quand même sur ce point. Il n'est pas de Marseille. Bien. On continue. Vaïka Abraham ben Nahor, lahem Nashim. Or, Abraham et Nahor avaient fui pour eux femmes, Shem et Shet Abraham Sarai. Le nom de la femme d'Abraham, Sarai, et Sarai signifie. Vous y êtes? Au verset 29. Au verset 28, j'ai expliqué le mot moledet, que l'on traduit en hébreu moderne par patrie. Et c'est le sens authentique dans une sociologie normale. Dans une sociologie normale, on est dans sa patrie. Okay? Alors que moledet ici, ça veut dire l'endroit de la naissance. Par exemple, je suis né en Algérie. Ben, l'Algérie, ce n'est pas ma patrie. Ce n'est pas un secret, les Algériens le savent. Okay? Est-ce que c'est clair? Donc. Et je continue. Vaïkach Abraham ben Nahor laem nashim. Abraham ben Nahor prit pour eux des femmes. Shem Eshet Abraham Sarai, le nom de la femme d'Abraham Sarai, et Sarai signifie ma princesse. Nous allons voir plus tard que dans le changement de nom entre Sarai et Sarah, il y a un passage à l'universel. Sarai, ma princesse à moi, chauvinisme nationaliste, entre guillemets. Okay? Et Dieu lui dit, elle ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah, la princesse. Vous avez senti cela? Et nous verrons que dans la même dimension du passage à l'identité universelle entre Abraham et Abraham, nous allons l'étudier dans la Gemara. Veshem Eshet Nahor Milka est le nom de la femme de Nahor, Milka. Bat Haran, fille de Haran, Abi Milka, lequel était père de Milka, Abi Iska, et de Iska, de là on apprend que Sarai s'appelait aussi Iska. Tout ça c'est plein de dimensions d'études dans le Midrash. Je résume. C'est-à-dire, vous remarquez, dans chaque verset que j'aurais à vous citer, il y a aussi des indications qui sont très importantes à comprendre, mais qui ne font pas partie directement de notre sujet. Ce que l'on apprend, c'est qu'ici, la Torah commence un gros plan de description de carte d'identité, l'identité de cette famille des Hébreux qui est la seule rescapée de toute la descendance de Héber, toute la descendance de Hever étant en situation d'Israël avant la lettre dans la situation d'Urkazi. Alors avant l'Apsaka, je donnerai deux indications. La première, celle qui nous vient du Midrash qui parle de la vocation d'Abraham. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà étudié cela au Talmud Torah ou ailleurs, mais je crois qu'il est nécessaire de le rappeler pour le rattacher à notre sujet. Et la deuxième, c'est l'indication que j'ai déjà donnée tout à l'heure, qu'à toutes les générations, la Torah nous indique qu'il y a eu, à chaque temps de civilisation, une société qui était censée jouer le rôle assigné par la Bible à Israël, la société de prêtres. Et que la situation des Hébreux au Kazim, c'était de jouer ce rôle-là. Et on va l'apprendre d'abord par ce premier Midrash. Le Midrash qui raconte qu'Abraham était dans la boutique de son père, fabricant d'idoles, vous vous rappelez de cela, et que pour lui faire comprendre, avec le respect dû aux parents, sa vocation monothéiste, et c'était un enfant, mais il était respectueux des parents. Il devient Baal Shuva, mais il respecte son père. C'est clair ce que je dis là. Et d'ailleurs, la Gemara l'établit, que grâce à Abraham, Terach a droit au monde à venir, bien qu'il n'ait pas rentré dans le pays de Canaan, et que il y a droit grâce au mérite du respect des parents chez Abraham. Imaginez, Abraham, il était encore Abraham, mais il est défini par rapport à la loi avec le nom d'Abraham comme le voit. Et je veux dire que la situation est très analogue. Ce retour à l'identité hébraïque, c'est Abraham qui le réussit. Donc Abraham est le premier Baal Shua, si j'ose dire. Mais il respecte son père. Et alors, je continue dans ce midrash. Voilà comment Abraham, quelle stratégie il emploie pour faire comprendre à son père que le temps est revenu de revenir au monothéisme hébreu. Alors, détruit toutes les idoles de la boutique de son père, sauf une, la plus grande, il met la hache entre ses bras et une offrande devant l'idole. Lorsque Terach rentre dans la boutique, d'ailleurs on se demandera qu'est-ce qu'il faisait dehors, eh bien, il demande à Abraham qu'est-ce qui s'est passé, et Abraham lui raconte une histoire. Il dit, voilà, il y a un païen qui est venu offrir une offrande, les idoles se sont disputées pour savoir qui aurait l'offrande. Le païen, le pauvre, ne savait pas à quel saint se vouer, il s'est enfui, mais l'idole la plus forte a détruit toutes les autres, et elle a gardé. Bien. Et alors, Terach dit à Abraham, tu ne peux pas me raconter ça à moi. Alors Abraham lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Vous avez compris le... C'est comme ça que le Midrash raconte la vocation d'Abraham. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça, un fabricant d'idoles? C'était le grand prêtre de la religion idolâtre de Mésopotamie. Et vous savez, je ne veux pas être trop contemporain, mais il arrive que des juifs deviennent le grand prêtre de la religion idolâtre du coin. Je reviens à vous. Au problème. Aucune analogie avec rien de connu. Mais il y a ici quelque chose d'extraordinairement frappant. Ça peut nous paraître invraisemblable que Terach soit le Kohen Gadol de Urkazdim. Il fabrique les idoles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui fabrique les symboles des idéaux qu'adorent les fidèles de sa religion. C'est une sorte... Cette boutique de Terach, elle pourrait être à Saint-Sulpice, là où on fabrique... vous croyez vraiment que les gens qui achètent ces statuettes adorent la statuette? Pas du tout. Ils adorent ce que ça représente. Mais est-ce que c'est clair? Et alors, si le Midrash appelle le grand prêtre le fabricant d'idoles, c'est clair. C'est un inventeur d'idéal, mais c'est un fabricant d'idoles. Voilà, ça va jusque-là? Bon, alors, on voit, ça éclaire la fonction des Hébreux à Okazim, selon le Midrash. Et si nous nous posons une question sur le texte, mais qu'est-ce que ces Hébreux faisaient là-bas? Bon, il faudrait raconter toute l'histoire juive. Et qu'est-ce que les Juifs font à Brooklyn? Alors, on va remonter, d'où tu viens, et comment, et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut raconter toute l'histoire. Mais c'est le même mécanisme, c'est le même processus. Est-ce que c'est bien clair? Seulement, il est arrivé un temps où cette civilisation est devenue, en termes contemporains, concentrationnaire. C'est Abraham qui décide de décrocher. Qu'est-ce que dit le Midrash? Alors, le roi de Babel, de cette Mésopotamie, Nimrod, le jette dans la fournaise. Il a fallu le temps présent pour savoir ce que c'est. Donc, quand je vous ai dit lundi soir, Abraham est le type du rescapé de la Shoah. De ce temps, l'histoire d'Israël commence avec des rescapés de la Shoah. Est-ce que c'est clair? Bon, oui, oui. Non, j'ai posé la question, qu'est-ce que les Hébreux font à Ur-Kasdim? Pas tous les Hébreux n'étaient le maire de New York. Hein. J'ai corrigé. C'était une question qui n'avait pas sa place. Et alors, la deuxième référence, vous allez la prendre au verset. Je vous mets tout de suite le verset dans le chapitre 6. Oui, au verset 6, au verset 3, pardon, du chapitre 6. Voilà, à propos d'un verset absolument sibyllin, vraiment hermétique, verset 3 du chapitre 6, au moment où Dieu a jugé qu'il était nécessaire de sanctionner l'échec de la première tentative de la civilisation par le déluge, le verset dit ceci, « Vayomer Hashem, et Dieu dit, « Lo yadon ruchi ba'adam, mon esprit ne jugera plus l'homme, peut aussi, un harmonique de sens ne dominera plus sur l'homme, les olam, à jamais, beshagam ou bassar, quand bien même il n'est que cher, verayu yamav meave esrim shana, et ses jours ne seront plus que 120 ans. Je commence par 120 ans. Vous remarquerez que, par la suite, dans les généalogies, nous avons des personnages qui vivent beaucoup plus que 120 ans. Donc ça signifie pas que les hommes ne vivront plus que 120 ans. Avec tout le souhait que ça représente, c'est passé dans le folklore juif, Admea Vesrim, Admea Keesrim, vous connaissez la nuance du Midrash? Donc, et des fois les gens se plaignent, tout ça tu me souhaites, mais en fait c'est un autre problème. Ça veut dire que l'humanité a un sursis de 120 ans jusqu'au déluge. Ça ne veut pas dire que les hommes ne vivront plus que 100, c'est clair? Il y a un sursis de 120 ans, pas plus, jusqu'au moment où le déluge viendra, sera ajouté à ce sursis de 120 ans, 7 jours, les 7 jours de Metushelar. Je reviens au sujet. Alors, la Gemara va poser une question apparemment inouïe, invraisemblable. C'est dans la Gemara de Houlin, à la page 139b. On a posé la question suivante à Rav Matana. Remez le Moshe minatora minaïn. Une allusion à Moïse dans la Torah, où on la trouve? Regardez l'humour de la question. La Torah, c'est plein de Moïse. Mais on nous demande une allusion à Moïse dans la Torah. Amar Lehu, Beshagam ou Bassari. Il a répondu, Rav Matana, ce verset. Beshagam ou Bassar. Par le fait même qu'il est de chair. Oh, je pourrais passer une heure à vous expliquer ce mot-là. Je veux dire l'essentiel, ce mot n'existe qu'une fois dans la Bible. Beshagam. On peut le décomposer. Les grammairiens appellent ça un apax. Apax legomenon, no machuvukazeket. Et alors, on peut le décomposer. Beshagam. Bien que. Afralpiché. Okay. Et, bon, les commentateurs de la Gemara expliquent, la valeur numérique de ce mot Beshagam, c'est 345, c'est la même que le mot de Moshe. Alors, on va décrypter tout ça. Le sens de la réponse de Rav Matana, tu veux une allusion à Moïse dans la Bible, mais tu vois ce mot Beshagam, au temps du déluge, eh bien, c'est la même valeur numérique que le nom Moshe 345. Voilà une allusion à Moïse dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me suffit que de 3-4 phrases et vous allez comprendre. Non? Ça veut dire que, bien qu'il soit cher, quel rapport avec Moïse? Eh bien, c'est un problème. Est-ce qu'on peut admettre que Moïse ait eu un corps? Ça, la théologie chrétienne a ce problème en long et en large. Okay? Bien qu'il soit cher. Ça veut dire qu'il a échoué, ça vient de ce qu'il est cher. Mais bien ce qu'il soit cher, le décret est donné. Alors la Gemara explique ceci. Eh bien, au temps du déluge, il y avait une société qui était chargée de sauver l'humanité. Et elle avait donc un chef. Et ce chef a échoué. Voilà donc une allure. Il a échoué, et Dieu décrète l'échec, bien que on pourrait l'excuser, puisqu'il n'est que cher. Vous avez suivi le raisonnement? Bon. Vous avez remarqué que si on ne le suit pas en hébreu, on ne se rend pas compte du tout de quoi là. On se demande, c'est une question de Pourim, ça. Une allusion à Moïse. Béchagam, c'est la gamatria de Moshe. J'ai compris ce qu'il y a dedans. Alors, de là apparaît le fait qu'à chaque génération, il y a une société qui est censée jouer le rôle d'Israël. Or, échec après échec, tout ça est résorbé dans le récit. La Torah ne raconte que l'histoire de la société qui émerge dans l'histoire à partir d'Abraham, l'Israël de l'histoire que nous connaissons. Est-ce que ce résumé vous suffit? Bien, nous allons prendre 2 minutes de Hapsaka et nous revenons donc à la question précise, qu'est-ce que ça veut dire hébreu, dans le chapitre 14, verset 13. Nous sommes au verset 30 du chapitre 11. Et nous sommes donc au récit de la sortie de la famille d'Abraham du pays d'Ur-Kazim, de la civilisation mésopotamienne, où ils se trouvaient donc en exil, puisqu'ils sont les descendants de Éver, descendants de Shem. Verset 30, on nous indique déjà, après les informations précédentes, « Vatehi Sarai Akara ». Et que Sarai était stérile, elle n'a valade, elle n'avait pas d'enfantement. C'est indiqué immédiatement après le verset précédent, où on indique déjà, que Nahor avait pris pour femme la sœur d'ailleurs de Sarah, qui s'appelait donc à l'époque Sarai. Milka, ce Nahor qu'on retrouvera dans la généalogie postérieure comme chef de la famille d'où viennent Rivka, Léa et Rachel. C'est bien clair, vous voyez ce qui se met en place. Alors verset 30, « Vatei Sarai Akarain la balade », verset 31, « Vaikar Terach », suivez bien, « et Terach prit, est Abraham Beno, Abraham son fils, Vetlot ben Aran ben Beno, et l'autre fils de Haran, fils de son fils, Vet Sarai Kalato, et Sarai Sabru, Echet Abraham Beno, femme d'Abraham son fils, Vayetse Uita Meur Kasdim, et ils sortirent avec eux, avec Terach et Abraham, suivez bien, la Leche Tartsa Knaan, pour aller en direction du pays de Knaan, Vayabohu At Haran, ils arrivèrent jusqu'à Haran, Vayeshevusham, et ils s'installèrent là-bas. C'est bien avant que, au début du verset 12 qui suit, on apprend que Dieu se révèle à Abraham pour dire « Lech lecha, quitte ton pays et va là où je me montrerai à toi ». Je vais voir le verset tout à l'heure. Vous voyez le déroulement du verset, du récit. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'aboutissement de la généalogie de Éver dans la famille de Terach, il y a un gros plan, un coup de projecteur qui nous est donné sur l'identité de cette famille, et on apprend que cette famille, sous la direction de Terach, sur l'initiative d'Abraham, restituera le Midrash, quitte Ur-Kazim pour se diriger vers le pays de Canaan. Donc ils savaient où ils allaient, ils rentraient chez eux. Est-ce que c'est clair? Top. Verset 32. Vayehu yeme Terach, hamesh shanim u'mataim shana, vayamot Terach b'Haran. Et Terach vécut le temps qu'il a vécu, et Terach mourut à Haran. À cause de la relation avec d'autres épisodes racontés par la suite, le Midrash va restituer le fait qu'effectivement cette famille était arrivée à Haran, mais Abraham et Terach et Lot avaient fait un voyage d'exploration dans le pays, mais étaient retournés à Haran, et Terach est resté à Haran, et Dieu se révèle, et là les Mefarshim, les commentateurs, se demandent si cette révélation du Lech Lecha a eu lieu déjà au Kasdim ou à Haran, mais dans les deux cas, on a appris l'essentiel. Dieu se révèle à Abraham pour confirmer « va ». Et comment lui dit-il « va » Suivez, chapitre 12. « Vayomer Hashem el Abraham » et Dieu dit à Abraham « Lech lecha, va pour toi, mais artsecha de ton pays, mais molatecha » alors on traduira plus ta patrie, de ta terre natale, okay, ton paysage natal, « mi bet abicha » de la maison de ton père, « et la haret asher areka » vers le pays que je te montrerai. Okay. Et mettons-nous à la place d'Abraham. Entendant cette révélation, va vers le pays que je t'ai montré. Alors, où je vais, du point de vue de la lecture drash de Al-Elasher Areka et la Retsacher Areka, on peut lire, c'est pas le pshat, mais on peut lire, va vers le pays où je me montrerai à toi. Tu sais où tu vas, mais le rendez-vous, c'est quand je me montrerai à toi. Et on apprend par la suite que c'est sur la montagne de Moria, au moment du sacrifice d'Isaac, entre guillemets, que cette rencontre a eu lieu, puisque cette expression de Lech Lecha se retrouve à propos de Moria. Vous verrez par la suite. Donc, et c'est clair jusque-là. J'ai schématisé énormément d'études de sources. Je vais le refaire en quelques phrases. Cette famille, de sa propre initiative, quitte la civilisation d'Ur-Kasdim et rentre au pays de Canaan. En chemin, Dieu se révèle à Abraham pour dire c'est bien ça qu'il faut faire. C'est clair. Je vais mettre une parenthèse très importante, puisque nous vivons des événements parallèles dans le temps contemporain. L'initiative de mettre fin à la situation d'exil en civilisation extérieure vient de l'homme, vient de l'hébreu lui-même. Lorsque il y a un diagnostic que ce lien doit être rompu sous peine de disparition. Est-ce que c'est clair comme parallèle, Ken? Et vous savez que c'est le grand débat avec l'orthodoxie juive non ou anti-sioniste, suivant le vocabulaire d'hier soir, Ken. Est-ce que l'initiative doit venir des juifs ou est-ce qu'on doit attendre qu'un clin d'œil du Messie? Je dis ça comme ça, mais vous comprenez le drame qu'il y a derrière. Le premier exemple que nous donne la Torah d'une fin d'exil, c'est que l'initiative vient de l'homme et Dieu confirme. Est-ce que c'est bien clair? Et cette confirmation va être donnée dans les promesses aux patriarches, et les patriarches, dira le Midrash, n'ont pas vu l'ombre d'une réalisation de ces promesses. Et pourtant, ils sont l'objet de cette confirmation. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là, ou voulez-vous que je vous donne des références, okay? La deuxième fois, c'est la sortie d'Égypte. Moïse déclenche, de par sa propre initiative, par son propre diagnostic, le décrochement de la civilisation d'Ur-Kasdim. Et Moïse n'est pas n'importe qui, comme Terach n'était pas n'importe qui. Moïse était sur le trône du Pharaon, enfin le fils adoptif du Pharaon, devant être son héritier de la civilisation égyptienne, de l'empire des pharaons. Et c'est lui qui diagnostique, le temps est arrivé, il faut décrocher. L'initiative vient de Moïse, et c'est 40 ans après que Dieu se révèle à lui dans la vision du buisson ardent à Midian, où Moïse a dû se réfugier, parce que les Hébreux, comme les Égyptiens, refusaient sa mission, pour lui dire, c'est bien ça qu'il faut faire, retourne et fais sortir le peuple d'Israël d'Égypte. J'ai des choses à lui dire au Sinaï. Okay. C'est très frappant. Et il y a une massivité telle qu'on doit s'étonner de ce que tous ces érudits, tous ces sages n'arrivent pas à lire le texte en lecture directe. C'est-à-dire, encore une fois, que Dieu ne s'adresse à Israël en exil, Abraham, Moïse, que pour dire une chose, rentre au pays, là-bas j'ai à te parler. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que Moïse avait l'intention de faire sortir vraiment tout le peuple des Hébreux avant que ça lui soit
très bien.
Dit
Oui, très bien. Il faudrait reprendre cet épisode très en détail. Okay. La question que vous posez est à sa place. Mais je vais vous donner une préface à la réponse, ce serait une étude pour elle-même. Si vous voulez, on peut le faire, on le ferait demain. Mais parce qu'il faut que je vous apporte les livres. C'est ceci. La première scène qui nous est racontée par la Torah, une minute. Est-ce que quelqu'un veut aller au bureau m'apporter mon petit livre de Shemot, un livre analogue à celui-là? Vous l'avez au chapitre 2 de l'Exode. La scène qui nous est racontée est la suivante. Moïse est sorti vers ses frères et nous allons lire le verset assez en détail. C'est le moment où il va décider qui sont ses frères. Est-ce que ce sont les Égyptiens? Est-ce que ce sont les Hébreux? Lorsqu'il voit l'Égyptien frappant l'Hébreu, il décide que ses frères, c'est les Hébreux. Et le texte dit, et il tue l'Égyptien pour sauver l'Hébreu. Ce geste de Moïse a fait basculer l'histoire. Elle n'est pas passée par l'Égypte comme elle aurait pu le faire. On ne refait pas l'histoire à l'envers, grâce à Dieu. Comme elle aurait pu le faire si Moïse avait accepté d'être égyptien, elle est passée par Israël parce que Moïse a décidé de quitter le trône du Pharaon et de rejoindre ses frères. Deuxième scène, il voit un Hébreu frapper un Hébreu. Alors il s'enfuit. Okay. Il s'enfuit à Midian, 40 ans. Et au bout de 40 ans, les péripéties sont très précises. Dieu se révèle à lui dans la vision du buisson ardent, lui dit « Retourne, sauvez mon peuple qui est en Égypte. » C'est bien ça qu'il fallait faire, ça c'est moi qui l'ajoute. Okay. Mais suivez bien le déroulement. Pourquoi la Torah nous raconte cette péripétie? Qui est Moïse? Il est cet homme d'identité araméenne de l'Égypte. C'est-à-dire, dans sa vie intérieure, hébreu, dans sa vie extérieure, égyptien. Comme Terach était l'identité araméenne de Mésopotamie, dans sa vie intérieure, hébreu, mais très enfoui, Ken, c'est, ça ressurgit avec Abraham, et dans sa vie extérieure, babylonien. Et Moïse n'est pas n'importe qui. Il sait qu'il est le fils du chef de la tribu de Lévi, les Hébreux étant en camp de concentration dans le pays de Goshen, en son temps. D'autre part, il est, disons à la limite, le premier ministre de l'Égypte. Et il choisit quoi être. Être l'Égyptien ou être l'Hébreu. Il ne choisit pas un niveau culturel. Il y a une collaboration de culture entre l'Hébreu et l'Égyptien, les maîtres et les esclaves, mais c'est l'histoire de l'universel humain. Et son choix, c'est lorsqu'il voit que le droit passe par l'Hébreu et pas par l'Égyptien. C'est pas l'objet du cours, mais je voudrais quand même vous citer un Midrashim qui dit que Moïse était le chef des camps de concentration du pays de Goshen. Imaginez, le capot en chef des camps de concentration de la Shoah d'Égypte, okay, et qu'il avait comme insigne un collar, comment on appelle ça, un joug qu'on mettait sur les esclaves en or. Le pharaon aussi en avait un en or sur la poitrine. Okay. Il était tout puissant. Et alors il a vu et il a compris, dit le texte, qu'il fallait qu'il décide. Imaginez ce juif d'identité mixte, totale, poussé à la limite, à la fois totalement hébreu, à la fois totalement égyptien. Imaginez-le fonctionner dans l'histoire, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, d'Israéli, je ne sais pas pourquoi son nom me revient, totalement britannique, à l'extérieur, totalement hébreu, à l'intérieur. Un jour, il faut qu'il choisisse. On donne la Palestine aux Juifs ou aux Arabes? Est-ce qu'il n'a pas réagi en anglais? Il a réagi en juif. Vous avez compris le... Mais il y a quelque chose d'analogue dans cette situation de Moïse. Et par conséquent, son geste, décrit par la Bible, c'est même pas la peine d'ouvrir le verset, il tue l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la Bible va se préoccuper de nous raconter que Moïse, le chef en chef des camps de concentration, a tué un Égyptien. Pourquoi cette anecdote? Et pourquoi raconter comme ça? Allez, je vais prendre le texte, okay, en parenthèse. Alors, notez la référence, c'est au chapitre 2 de l'Exode. Verset 12. Alors je prends à partir du verset 11. Vaïhi vaïmi vaïm. Il arriva en ces jours-là. Vaïgdal Moshe. Et Moïse grandit. Vaïetse Elechav. Il sortit vers ses frères. Nous sommes tellement habitués à savoir que Moïse est un hébreu qu'on oublie qu'il est à ce moment-là. Il est un hébreu déguisé en pharaon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Okay. Et alors il sort vers ses frères. Mais on ne sait pas lesquels. C'est à la fin du verset qu'on va savoir lesquels. Pour que ça soit bien clair phénoménologiquement. Prenez un juif en situation de juif de diaspora au service du pays où il vit. Un ministre du gouvernement Mitterrand précédent. Non, Attali n'était pas ministre. Bon, peu importe. S'il dit, en sortant de l'Élysée, je vais vers mes frères, où il va? À Saint-Paul? Bon, ça c'est encore... je sais plus où ça se trouve, à l'archevêché. Bon, vous voyez, chez les Français ou chez les Juifs. Vous voyez à quel point c'est clair, bien que apparemment c'est compliqué. On ne sait pas. Il a décidé ce jour-là d'aller chez ses frères. Lesquels? Si ce ministre, peu importe lequel, dit que ses frères sont les Français, c'est vrai. Et s'il dit que ses frères sont les Juifs, c'est vrai. Alors lesquels? Vous suivez à quel point il y a un drame de l'identité de Moïse à ce moment-là. Vayar Bessiblotam, et il vit leur fardeau, leur peine, les deux, dit le Midrash. Et il vit les fardeaux des Hébreux et les fardeaux des Égyptiens. C'est ce à quoi je faisais allusion en disant il y a un contrat de travail pour la civilisation humaine entre l'Égypte et Israël de ce temps. Pardon. Il y a les maîtres et les esclaves, mais ils sont occupés au même travail de civilisation, construire les pyramides. Alors il y a le fardeau des architectes égyptiens et le fardeau des porteurs de pierres hébreux. Alors il considéra alors les svalim de l'un et de l'autre, Bayar, et voilà ce qu'il voit. Ish mitzri makeish ivri me'echav. Un homme égyptien frappait un homme hébreu de ses frères. C'est à la fin que le texte nous dit que c'est les Hébreux, ses frères. Je relis le verset, vous c'est clair. Et il vit un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. Alors qu'au début, Vayetse l'Echav, il sortit vers ses frères, on ne sait pas lesquels c'est. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il faut arriver à identifier cela. Or, on va se poser la question, pourquoi le texte dit un homme égyptien frapper un homme hébreu? Il suffirait de dire un égyptien frapper un hébreu. Alors le sens est clair, et il voit l'homme égyptien frapper l'homme hébreu. Alors il choisit. Regardez comment il choisit. Verset 12. Vaifen Kovako. Il se tourna, ça et là. Vayar, et il vit qu'il y a une niche qui avait personne. Vayar est à Mitzri, il frappe à l'Égyptien. Vaitmenehu Bachol, il l'enfouit dans le sable. On va se demander, mais de qui il a peur? Si il est tout puissant. Alors, Rashi cite un Midrash qui va très profondément. Vaifen Kovako, il scruta toutes les généalogies de l'Égypte future. Et il vit, Vayar qui est niche, il vit qu'il n'y avait plus personne. Et Rashi ajoute, en citant le Midrash, plus personne destiné à se convertir à Israël. Alors il décide, on n'a plus rien à faire ici. On s'en va. C'est clair jusque-là? Donc. Et maintenant je parle j'ai schématisé, parce qu'il y avait une demi-exception qu'il n'a pas bu, ça nous a fait des tsaot jusqu'à la fin des temps. Et tu connais l'exception. Et à la fin du verset, il frappe l'Égyptien et il l'enfouit dans le sable. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il l'ait enfoui dans le sable? Okay. On va lire un autre niveau. Chol, en hébreu, ça veut dire le sable. Et ça veut dire aussi, vous le savez, profane. Ça veut dire, l'Égypte, il l'enfouit dans le profane. C'est devenu Chol. Le Kodesh ne passe plus par l'Égypte, il passera par Israël. Mais oui, cette problématique de l'identité de Moïse qui est colossale à ce niveau-là. Il est l'Égyptien par excellence et l'Hébreu par excellence. Et pas n'importe lequel, encore une fois. Le fils de la tribu, du chef de la tribu de Lévi et le fils adoptif du Pharaon. Tout juif de diaspora se reconnaît à quelconque niveau dans cette figure limite qui est la figure de Moïse. Est-ce que c'est clair? Et à un certain moment, il y a choix. Pourquoi est venu le choix? Encore une fois, pas pour des raisons d'ordre culturel. Moïse pouvait argumenter et dire « culture des Hébreux de Goshen, mon ghetto, culture des Égyptiens du Pharaon, mon pays, c'est équivalent. Aujourd'hui, vous avez énormément d'hommes de culture qui vous mettent en balance. La culture de leur pays, que ce soit l'Amérique, l'Angleterre ou la Scandinavie, et la culture juive. Okay. » C'est pas à ce niveau-là que finalement le choix se fait. La preuve, c'est que les Juifs de double appartenance de diaspora vivent les deux cultures à la fois lorsqu'ils les vivent. Est-ce que c'est bien clair? Il y a un choix d'identité qui est fait pour des raisons d'ordre moral. Le texte est très clair, bien que très condensé. De notre temps, il y a eu énormément de Juifs assimilés à la culture européenne qui sont revenus au judaïsme par revirement d'identité à cause du sort des Juifs dans cette culture européenne. C'est très analogue, Ken. Je crois que l'exemple qui me restera toujours dans la mémoire parmi d'autres, c'est Manès Perber, que j'ai cité un jour, Ken, qui était un homme qui avait opté pour la culture de l'Occident. Il était un marxiste autrichien. Et puis, à cause de la Shoah, il est revenu dans la communauté juive. Il n'est pas rentré en yeshiva, mais peut-être qu'un de ses descendants sera au yeshiva. Ça, c'est un autre problème. Il est rentré dans sa communauté. Très significatif, absolument. Et là, vous voyez donc cette scène, c'est à vous que je parle, cette scène indique bien que Moïse décide le décrochement des Hébreux de cette symbiose catastrophique à l'Égypte, devenue catastrophique en Égypte de ce temps, symbiose qu'avait inaugurée Joseph. Et n'oubliez jamais ce parallèle entre l'identité de Joseph et l'identité de Moïse. Joseph était l'Hébreu s'habillant en Égyptien et devenant le Pharaon. Et Moïse est cet Hébreu habillé en Égyptien dans le palais du Pharaon qui enlève le déguisement égyptien qui se retrouve Hébreu. Et j'ai toujours cité cela, le fait que la Torah nous indique au moment de la sortie d'Égypte que Moïse ne pouvait pas quitter l'Égypte sans emporter avec lui les ossements de Joseph. Parce qu'il faut que la boucle soit bouclée. Si Moïse quitte l'Égypte sans emporter les ossements de Joseph, ça signifie que la sortie d'Égypte disqualifie Joseph. Tandis que si Moïse emporte les ossements de Joseph, il assume, je ne sais pas comment dire, il légitimise le rêve de Joseph, l'objectif de Joseph. Il a échoué ce rêve, mais il était à faire. Est-ce que c'est clair? Voilà, et vous avez dans ce circuit Joseph-Moïse, toute l'histoire de la diaspora. Ça commence avec un Joseph, ça finit avec un Moïse. Et c'est pourquoi je dis souvent, je ne me souviens plus si je répète ce que j'ai dit lundi ou ailleurs ou dans une autre occasion, la question n'est pas tellement de savoir si il y a une raison à l'aventure de Joseph ou à l'aventure de Moïse, si la diaspora c'est légitime ou si c'est Israël qui est légitime. Les deux sont légitimes en leur temps. C'est-à-dire la question est de savoir en quel temps nous vivons. Si nous vivons au temps de Joseph, c'est Joseph le tzaddik. Si nous vivons au temps de Moïse, c'est Moïse le prophète. Est-ce que c'est clair? Et vous me direz, oui, mais est-ce qu'on a un signe pour savoir? Est-ce qu'on a besoin d'un signe quand Moïse est là et qu'il ramène les Juifs après 2000 ans, alors pendant 2000 ans que ce n'était pas possible, et qu'il se passe ce qui se passe? Il faut être aveugle pour le... Vous savez, dans la prière de tous les jours, on dit, et ouvre nos yeux quand tu rentreras à Sion. Et que nos yeux voient. Okay? Ça veut dire, la chose la plus à craindre, c'est pas que ça arrive pas, c'est qu'on le voit pas quand ça arrive. Alors on a prié pendant 2000 ans pour qu'on le voit quand ça arrive. Et c'est ça la situation. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est très clair que la Torah nous raconte les deux moments de cette péripétie. Au moment de Joseph, tout le monde rejoint Joseph. Au moment de Moïse, il faut sortir avec Moïse. Ceux qui sortent pas se perdent dans la plaie des ténèbres, dira le récit. Le 4/5 des Hébreux sont pas sortis. Alors, c'est pas pour rien qu'avec beaucoup de pudeur, le texte dit ils se sont perdus dans la plaie des ténèbres. Vous avez compris le... Voilà, c'était pour votre question, et on revient rapidement. Hein. Bon. Lequel? Le verset? Ben oui, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et alors, la deuxième scène, c'est lorsqu'il voit un Hébreu frapper un Hébreu. Et alors, il est, dans le verset précédent, déçu de l'Égypte. Il rentre au ghetto. Au ghetto, il voit, je sais pas, il a dû assister à une réunion du consistoire, je sais. Il voit que ça va pas. Alors, il s'enfuit. Il s'enfuit à Midian. Je voudrais pas amorcer ce récit. C'est un sujet pour lui-même qui me prendrait trop de temps. Mais il y a une espèce de double déception. Il est déçu de l'Égypte et il est déçu de son peuple. Alors il s'enfuit à Midian et la suite du récit montre qu'il essaye, il tente de faire exister une sorte d'ertsatz d'Israël. Et déçu d'Égypte, il ne rentrera plus en Égypte. C'est fini. L'Égypte, il l'a envoyé dans les sables. Ah, c'est ça que je voulais citer. Il l'a enfoui dans les sables. Okay? Et effectivement, l'Égypte est enfouie dans les sables. Et cette Égypte-là. Et puis, pendant 40 ans, il cherche à reconstituer un véhicule d'une société qui porterait les idéaux d'Israël, mais qui ne serait pas Israël, parce qu'il est déçu d'Israël. Ça ressemble beaucoup à toutes ces élites juives qui tentent d'être le Moïse d'un Midian quelconque, okay, qui sont déçus de la civilisation occidentale, je fais allusion à personne, mais ils sont déçus de leur communauté. Et alors, il parle des valeurs d'Israël, en général sans savoir l'hébreu, en se cherchant une société en voie de développement pour être l'ersatz d'un Israël qu'il ne veut pas rejoindre. Bon, c'était un effort gigantesque pour schématiser tout ça, mais j'espère que vous avez compris. Et Je serai ton Moïse, tu seras mon Midian. C'est tous ces grands idéologues juifs qui commencent par vous dire « Je suis déçu de la civilisation occidentale. Okay » En général, ils sont déçus du marxisme. Et puis, mais le consistoire, Israël, les juifs, pas question. Les idéaux d'Israël, en français, en anglais, pour ceux qui achètent mes livres. Vous avez compris un peu à quoi je fais allusion. Ça ressemble beaucoup. Et si c'est déjà arrivé à Moïse, il y a de l'espoir pour tout le monde. Okay. Jusqu'au moment où Dieu se révèle à Moïse à Midian, quand la Torah nous dit que Moïse a un enfant qu'il appelle Gershom, en disant qu'il guère Haïti et Beres Nochria, car j'étais un étranger dans un pays, une terre étrangère. Lorsque Moïse prend conscience qu'il était étranger en Égypte et qu'il est étranger à Midian, alors Dieu se révèle à lui et lui dit retourne. Et le Midrash dit il commence à se révéler à lui par la voix de son père. Avec la voix de son père. C'est-à-dire qu'il faut une identification d'identité familiale avant de s'identifier avec sa nation. Vous voyez, je vous donne le verset. Je vais vous le donner le verset. Voilà. Au moment de la vision du buisson ardent, c'est le chapitre 3, verset 6. Vayomer, et Dieu lui dit, Anochi Elokei Abicha, je suis le Dieu de ton père, Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Yaakov, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, le Midrash pose la question, pourquoi il lui dit le Dieu de ton père? Abraham, c'est pas son père, c'est son ancêtre. Okay. Le Midrash dit, c'est la première fois que Dieu se révèle à Moïse, et pour pouvoir, si, je sais pas comment dire, faciliter cette révélation, il prend la voix de son père, Amram. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça veut dire, c'est très clair. Ce que ce texte nous enseigne sur ce point est très important. Lorsque Moïse se rend compte qu'il est hébreu et ni égyptien ni midianiste, par quoi ça commence? Par la réconciliation avec l'identité du père. À ce moment-là, Dieu se révèle à lui. Le Maharal, dans un de ses livres, Gorot Hashem, a un chapitre extraordinaire où il pose la question, quelle différence il y a eu entre Abraham et Moïse? Pourquoi Abraham devenu Abraham, n'a pas reçu la Torah, et c'est Moïse qui l'a reçue. La réponse est, je vous schématise, parce que la Torah concerne la collectivité d'Israël. Alors, mettez en apposition les deux noms. Abraham, c'est-à-dire le père élevé. Moïse s'appelle Moshe ben Amram, le peuple élevé. Vous voyez dans l'identification la différence de niveau. Chaque fois que le Midrash parle de Moïse, en tant qu'il a eu le privilège que la Torah est nommée de son nom, on l'appelle Ben Amram, le fils de Amram. On ne l'appelle pas Moshe. Dans la Gemara, dans le Midrash. Je vous raconter un de ces Midrashim. Au moment où la Torah a été révélée au Sinaï, alors il y a eu un vide, une absence dans l'univers, dit le Midrash. C'est un Midrash trouvé dans la Gemara de Shabbat. Je vous passe tous les détails. C'est un très très beau Midrash. Le prince du vide demande à Dieu la Torah. Je suis vide, il n'y a plus de Torah. Où aller? Mon Dieu veut dire, redemander au prince de la mer. Alors les océans, le prince des océans dit, où est la Torah? C'est vide. Et on ne peut plus dire, que tout celui qui a soif aille boire, il n'y a plus rien dans l'eau. Alors, où est la Torah? On dit, va demander au prince de l'obscurité, etc. etc. Jusqu'au moment où Dieu répond, eh bien, va chez le fils de Amram et demande-lui où est la Torah. Chez Ben Amram. Et alors, bon, tous les anges vont chez Moïse. Moïse, la Torah. Moïse, la Torah, moi, Moïse, ça va pas. Elle dit, une voix d'en haut dit à Moïse, puisque tu as été modeste, on l'appellera la Torah de Moïse.